Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé le meilleur week-end possible. RTL vous accompagne, vous et ce grand soleil. Merci pour votre fidélité à notre rendez-vous de chaque jour en direct entre 14h30 et 15h30 sur cette antenne, mais également sur l'application RTL et sur RTL.fr où vous pouvez allier l'image au son. Merci d'être là de votre côté, de votre poste. Je vous attends au 3210 et sur nos réseaux sociaux si vous souhaitez participer à nos conversations. Demain, on parlera de la tendresse. Mercredi, place au pouvoir des chansons avec Eric Jean-Jean. La reconversion professionnelle, ce sera pour jeudi. Et puis vendredi, on s'intéressera au tutoiement et au vouvoiement et à ce que leur utilisation induit dans nos relations. Mais pour l'heure, je vous le disais, en cette journée internationale de droits des femmes, nous vous proposons de réfléchir à notre esprit de compétition. L'esprit de compétition, la compétition, ça commence très tôt, dès les bancs de l'école et se révèle omniprésente un peu partout quand même dans notre société. Et si certains s'y sentent à l'aise et aiment se mesurer à leurs adversaires, d'autres ont en aversion l'émulation et la concurrence. Et les femmes dans tout cela doivent-elles redoubler d'efforts et se justifier d'être compétitives? L'esprit de compétition est-il aujourd'hui une qualité ou un défaut? Est-il un véritable axe de progression et d'évolution? Et que dit-il de ceux qui en sont dotés et de ceux qui le rejettent? On en parle avec vous, 3210, les réseaux sociaux, mais également avec nos invités. Pascal Schenck, bonjour.
Bonjour, Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste spécialisée en psychologie. En ligne avec nous aujourd'hui, vous le connaissez. Il est toujours au téléphone, lui. Hein,
on sait, oui, je le vois peu,
On le voit peu depuis quelques temps, c'est Jean-François Marmion. Bonjour Jean-François.
Mais est-ce que j'existe vraiment après tout?
Bah, plus vraiment, on se demande. Hein, vous savez, vous êtes un petit peu mystérieux comme ça. La dernière fois qu'on vous a vu, c'était il y a un an. Vous êtes psychologue. Soyez le bienvenu. Merci à vous deux d'être nos invités. Bon, évidemment, on va recontextualiser cette émission. Je le disais, c'est la journée internationale des droits des femmes. Je dis internationale car si nous avons des droits en France, on ne peut pas le nier, nous n'avons pas encore l'égalité, donc c'est là où le travail se situe, mais les droits ne vont pas de soi malheureusement partout dans le monde. Pascal Schenck, l'esprit de compétition a mauvaise presse, on va y revenir. Est-ce que c'est encore plus difficile aujourd'hui pour une femme d'être compétitive?
Écoutez, je pense qu'on n'est pas éduqué forcément pour développer un esprit de performance et de séparation de l'autre, qui est malheureusement le cas de la compétition un peu destructrice, hein, on va dire dans son côté noir. On a l'habitude de dire qu'on préfère le lien, qu'on préfère l'inspiration à la compétition. Donc effectivement, il y a tout un travail à faire pour se connecter à ce que j'appellerais ce mélange de passion et de niaque qui fait que vous avez envie d'avancer vous-même par rapport à vous-même. Et ça, tant que les femmes n'auront pas trouvé dans leur estime d'elles-mêmes,
c'est ça,
dans leur passion,
la légitimité à l'être,
voilà, continuer à avancer, continuer à se mettre dans la course, mais en traçant son chemin, pas pour démolir l'autre.
Alors on y reviendra parce que c'est la raison pour laquelle effectivement l'esprit de compétition n'est pas forcément bien perçu. Je tiens à préciser qu'on recevra Marlène Schiappa tout à l'heure en ligne, elle est ministre chargée de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur, très engagée depuis de nombreuses années sur le sort des femmes, et on en parlera avec Jean-François Marmion. Un mot pour ces dames?
Bah, ces pauvres dames, ça fait 10 000 ans qu'on leur explique sur tous les tons qu'elles sont pas faites pour la compétition.
Mais ouais.
On leur a expliqué qu'elles étaient faites pour avoir des enfants, donc il fallait être très doux. Au 19e siècle, les scientifiques pensaient que les femmes n'étaient pas très intelligentes parce qu'il fallait qu'elles sachent s'adapter en permanence à leur progéniture. C'était pas la peine qu'elles fassent des études, c'était pas la peine qu'elles travaillent, sauf peut-être au champ, oui, des trucs bien manuels, bien utiles. Il y a quelques décennies seulement qu'on commence à vous prendre au sérieux en tant qu'individu capable de voter, capable d'avoir un compte en banque sans demander au mari, capable de demander le divorce. C'est très très récent tout ça.
C'est très récent, il y a encore beaucoup à faire et c'est la raison pour laquelle cette journée se justifie parfaitement. Alors, des messages qui nous sont arrivés. Matt nous écrit: je suis navrée de voir que certaines personnes ramènent l'esprit de compétition à la domination et à l'effacement de l'autre. Si on aime être meilleur, et c'est mon cas, ce n'est pas obligatoirement aux dépens d'autrui. Je mets tout de mon côté pour réussir au mieux tout ce que j'entreprends. Mes proches me disent même têtu et j'aime partager les victoires avec les gens qui ont participé à celle-ci car l'esprit de compétition n'est pas forcément l'individualisme. Et Tata de répondre sur Facebook, c'est complètement négatif ce comportement, surtout quand ça rabaisse forcément les personnes alentour pour se donner de l'importance. Comment est-ce qu'on peut définir un esprit de compétition constructif et un esprit de compétition destructeur, Pascal Schenck?
Alors, c'est un esprit de compétition qui fait de la place à l'autre, qui ne cherche pas à éliminer l'autre. C'est un esprit de compétition qui contient de la coopération, parfois.
C'est ce que nous explique, justement, Matt.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, toute la psychologie, on va dire les neurosciences, s'intéresse à cette fameuse niaque, cette énergie qui naît de la passion et de l'envie de porter sa passion, qui vous amène à vous dépasser de vous à vous. C'est ça qui est intéressant dans la compétition positive, on va dire.
C'est une sorte de compétition intérieure entre une voix modérée et une voix allante.
Absolument. La motivation, c'est pas je vais écraser l'autre, je vais être la première, je vais ramasser tous les trophées. C'est je vais aller au mieux de ce que je peux faire avec l'autre. Parce que j'ai besoin d'une émulation avec l'autre. J'ai besoin de cette course, mais je n'ai pas besoin de démolir l'autre.
Néanmoins, je suis d'accord avec vous, Jean-François Marmion, il y a parfois des dommages collatéraux aussi. Quand on a l'esprit de compétition, il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est ça que certains déplorent.
Oui, oui, la compétition en soi, c'est une notion neutre, hein. C'est ni bon ni mauvais, tout dépend du discours qui l'accompagne et qui la justifie. Si c'est la compétition sportive, eh bien, ça va s'accompagner d'efforts, de discipline, de respect de l'autre, de fair play, de plaisir d'accomplir une bonne performance. Tout ça, c'est très bien. Mais aussi, il y a des milieux où la compétition, ça va consister explicitement à écraser l'autre, de peur qu'il ne vous mange, à être promu avant l'autre pour démontrer sa valeur, etc. Et dans ce cas, ça nous rapproche quand même pas mal de la psychopathie, c'est-à-dire l'utilisation de l'autre à des fins personnelles, comme s'il était un objet, et sans tenir compte de son empathie, mais de son émotion, de ce qu'il peut ressentir.
Pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais le fair play n'est pas réservé qu'au sport. Il peut l'être dans tous les domaines, on est bien d'accord.
Oui, bien sûr, c'est un exemple. Hein. C'est que la compétition peut être très bien aussi. On parlait de l'émulation tout à l'heure, on y a fait allusion. Ouais. L'émulation, c'est quoi? C'est la compétition, mais saine. C'est Lennon et McCartney chez les Beatles qui s'admiraient l'un l'autre, qui avaient à cœur de s'éblouir à chaque fois avec une nouvelle trouvaille. Ouais. Et ça les a tous deux tirés vers le haut, à tel point que quand ils ont commencé une carrière solo, c'est toujours excellent, mais un petit peu moins bien quand même, vous voyez.
Bon, ça c'est votre point de vue de grand fan inconditionnel. On va se retrouver dans un instant. Vous savez que cette émission, en cette journée internationale des droits des femmes, a suscité beaucoup de réactions masculines. Donc c'est Guy, dans un instant, qui va intervenir. Si vous êtes une femme, n'hésitez pas à composer le 3210, rendez-vous sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une réflexion qu'on s'est fait en préparant cette émission. Très peu de femmes ont répondu à l'appel de ce sujet. On se retrouve dans un instant en direct sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
On parle de notre esprit de compétition et je le disais il y a un instant en direct sur cette antenne, en cette journée internationale des droits des femmes, très peu de femmes s'expriment sur le sujet. Donc on vous invite au 3210 et sur les réseaux sociaux. Pascal Schenck est notre invité en compagnie de Jean-François Marmion et on accueille Guy sur cette antenne. Guy, bonjour.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous, Guy. C'est intéressant parce que vous avez été éduqué déjà dans un esprit de compétition. Que vous disaient vos parents?
Ma mère surtout voulait que je sois premier. Et surtout à l'école.
Ouais.
Alors en primaire, j'arrivais à être deuxième avec beaucoup de rage. Autant d'elle que de ma part. Parce qu'en plus, j'avais l'impression que ça allait m'aider à compenser d'autres lacunes.
Lesquelles?
Ou d'autres complexes, physiques, etc.
C'est-à-dire?
J'étais petit, avec une petite taille, avec un pied tordu.
Ouais.
Et ça, si vous voulez...
Des complexes, quoi.
Être un spécialiste de quelque chose, c'était censé aplanir ces tares, entre grosses guillemets, physiques.
Ouais, je comprends.
Avec 30 ans de recul, je suis tout à fait empathique, mesuré, etc. Voilà. Et par contre,
oui.
je préfère, je vous écoute plutôt.
Pascale Chien que vous écoute, elle, et elle voulait rebondir sur ce que vous venez de nous dire, parce qu'effectivement, on sent dans l'éducation de la maman de Guy une volonté que son fils transforme, dépasse peut-être une petite faiblesse qu'il avait ou que sa mère estimait qu'il avait au départ.
Oui, puis c'est le syndrome du premier de la classe. Enfin, on voit bien que l'éducation a un rôle fondamental dans cette acquisition de l'esprit de compétition. Et les parents sont très mal. Est-ce qu'ils doivent dire « Mon chéri, tu es le meilleur, il faut que tu fonces » ou bien « Mon chéri, tu pars avec des lacunes, il va falloir que tu mettes la gomme ». Mais j'ai été très touchée parce que je pense toujours à Romain Gary qui, vous le savez, dans son roman « La promesse de l'aube » a raconté comment sa mère, avec son désir qu'il soit ambassadeur, qu'il soit le premier...
Une ambition débordante et, et ravageuse.
Un amour vraiment immodéré pour ce garçon. L'a porté. N'empêche, il s'est suicidé.
Oui, mais c'est ça. À quel prix ?
Voilà. Hein voilà. Oui, c'est-à-dire, on vous fait rentrer dans la course, mais il y aura forcément des choses à protéger.
Mais est-ce que c'était l'esprit de compétition que sa mère soulignait chez Romain Gary ?
Elle voulait qu'il soit.
Voilà,
top.
Elle voulait qu'il réussisse.
Non, non, mais voilà. Alors, c'est peut-être pas le premier, mais c'est une icône, devenir hors norme, devenir hors peut-être même compétition. Mais voilà, cette question d'éducation.
Mais entre dire à son fils, tu es le meilleur, et dire à son fils, tu vas être le meilleur ou tu dois être le meilleur, Jean-François Marmion, il y a une nuance.
Oui, de toute façon, c'est pas forcément une bonne idée de lui dire tu es le meilleur ou tu dois l'être. Là, en l'occurrence, de la part de la mère de Guy, c'était, je pense, une quête de respect.
Oui, exactement.
De respect pour lui.
Et d'intégration.
Voilà. Et la mère de Romain Gary, c'était une question de respect pour elle. Pour que le
c'était sa propre ambition.
Fils, voilà, que le
rejaillisse sur elle.
Rejaillisse sur elle.
Oui, il y avait aussi quand même une histoire de filiation compliquée où elle voulait qu'il soit reconnu. Quoi. Bon.
Mais en tout cas, Guy, vous, votre mère vous a éduqué dans cet esprit. Donc à l'école, tu dois être le premier. Donc vous nous avez parlé de rage.
C'est... en primaire, j'étais à peu près deuxième. Donc,
oui, mais.
J'étais tout le temps deuxième.
Il fallait que vous soyez
mais
au top, quoi.
J'avais à cause de ça, j'avais envie de me battre. Et j'avais besoin d'inventer ma guerre, surtout que j'ai, comme tous les gamins, quoi.
C'est ça, vous
on
parlez de rage.
De toute façon, rien qu'en attendant, on sait qu'on va grandir, qu'on va. Donc, tant qu'on est gamin, on peut fantasmer notre croissance quand on sera plus grand, tout ça. Et oui, je parle de rage maintenant parce que je me dis, ça allait beaucoup trop loin.
Ça n'a jamais été agressif
dans le sens bagarre.
Non, mais ça a été une pression que vous avez eue. Alors, est-ce que cet esprit de compétition, vous l'avez eu ou est-ce que vous avez seulement agi pour votre mère ?
Ah, j'ai agi à partir de 12-13 ans, j'ai commencé à agir pour moi.
D'accord.
En tout cas, maintenant, je me rends compte avec le recul et j'ai pas complètement pardonné ça. Puis en fait, être premier, être deuxième, être troisième, se battre pour la médaille, c'est un peu bête, quoi.
Alors, est-ce
parce
que ça...
Il y a des facteurs chance qui font que les trois premiers, ils ont globalement le même niveau. Et après, c'est les circonstances qui font que... Et surtout, moi, là où j'ai parlé de race, c'est que derrière, j'avais une grosse déception, une grosse colère, une grosse tristesse que je gardais que pour moi en plus pour avoir l'air fort.
Bien sûr.
Et qui, à terme, détruit, quoi.
Mais évidemment.
Et détruit les relations et fait tout le contraire qu'épanouir, quoi.
Voilà. Donc, et en plus, j'imagine le sentiment d'échec.
Son mieux, c'est bien. La sélection, elle est partout dans la nature. C'est normal de vouloir se mesurer sur certains critères. Si t'es premier, t'es content. Mais si t'es deuxième, eh ben il faut pas se dire oh j'ai raté, je suis nul ou je suis jaloux parce que l'autre
c'est s'exposer. C'est s'exposer à de véritables déceptions et un sentiment d'échec. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant Pascale Chien et Jean-François Marmion sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand sur RTL
jusqu'à 15h30.
Il y a Doux qui nous écoute et qui tweet dans cette émission consacrée donc à notre esprit de compétition. Ceux qui pensent que l'esprit de compétition n'est pas une qualité sont des losers. Ça en dit long, Doux, hein, sur notre société. Si vous voulez nous appeler, vous composez le 3210 et on sera ravis de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. En attendant, Pascale Chien, Jean-François Marmion, vous venez d'entendre Guy qui a été mis sous pression très jeune et qui nous expliquait que à coup de rage, rage. Il parvenait, Pascal Schenck, à être dans le peloton de tête à l'école. Il nous a parlé d'une forme de guerre, tout ça sous la pression de sa maman. C'est quand même un langage qui est extrêmement dur. Hein. On a un message de Lily qui dit « Parfois, je lutte ».
C'est un langage de souffrance.
C'est ça.
Et qui est complètement déconnecté de la réalité, parce que en réalité, pour être en compétition, comme l'a dit Guy, c'est sur certains critères que ça va se jouer. Mais on est tous singuliers. Donc la compétition vous met dans la comparaison avec l'autre pour être sur le même modèle, alors qu'en fait, peut-être que Guy avait des capacités d'empathie plus fortes que d'autres, peut-être qu'il avait un goût de la poésie plus fort que d'autres, peut-être qu'il aimait les maths.
Il travaille dans l'environnement, par exemple. Voilà, il avait sûrement des.
On est tous différents. On est tous singuliers. Et la compétition nie la singularité. Et c'est pour ça qu'on perd ses ressources, parce que si on est pris dans cette course. Parfois, on oublie ce qu'on a vraiment de singulier en soi.
Ce que l'on entend aussi, Jean-François Marmion, c'est la déception. Le sentiment d'échec lorsque cet esprit de compétition n'est pas placé au bon endroit.
Oui, parce que la compétition, c'est sans fin. Vous allez lutter pour être le premier. Et puis, si jamais, par miracle, vous y arrivez, vous allez lutter pour le rester. C'est comme le champion olympique, il est sur le podium, il est content, mais maintenant, c'est lui la cible à dégommer. C'est lui qu'il faut battre, voire abattre. Et c'est sans fin. C'est toujours précaire, même si on y arrive. Il y a toujours quelqu'un qui va être calife à la place du calife. Et puis, pensez à tous ces enfants qui font plusieurs heures de tennis par jour ou plusieurs heures de piano par jour parce que papa et maman le veulent. Et bien, peut-être qu'ils réussissent à être le premier après, à être des virtuoses. N'empêche que quand ils écrivent leur mémoire, ils disent qu'ils sont malheureux.
Mais néanmoins, ça n'est pas véritablement de l'esprit de compétition. C'est un esprit de compétition faussement injecté, je dirais, Pascal Schenck.
Oui, c'est la motivation externe, comme c'est disent les neuroscientifiques, c'est-à-dire qu'au lieu d'être drivé, d'être conduit par votre propre passion, votre désir, votre envie d'être... Parce qu'on est inspiré par les autres aussi, hein. On n'est pas des bisounours, on est inspiré, on a des modèles, des gens qui sont devant nous, qu'on a envie de suivre.
On se mesure, bien
voilà.
sûr.
Et ça, c'est tout à fait sain. Mais le problème, c'est quand c'est tout extérieur...
Donc, est-ce que c'est inné ? L'esprit de compétition, dans ce cas, puisqu'on a l'impression que lorsque c'est une culture, ça ne prend pas.
Je pense franchement que c'est l'éducation. Et je pense que le rôle, la place qu'on a eue dans sa
Donc
fratrie...
Là, il a été, pardonnez-moi Guy, hein, n'en prenez pas ombrage, mais il a été mal éduqué à la compétition. Ça n'a pas été, ce n'est pas comme ça que l'on
pour
instaure
des raisons que
l'ambition chez un enfant.
Des raisons qui appartiennent à sa mère, à la place que sa mère elle-même avait dans sa famille, ce qu'elle a voulu le
Mais dire à un enfant, tu dois être le premier, Jean-François Marmion, ce n'est pas la solution pour lui donner un esprit de compétition.
Non,
le bon en tout cas.
Non, le mieux à faire, c'est de dire fais de ton mieux.
Exactement.
Voilà, fais de ton mieux. Ouais, et quand on fait de son mieux, automatiquement, on est bon.
Ouais.
Avec le meilleur, parce que ça peut faire. Mais au moins, on est bon et on prend du plaisir et on est rassuré sur son propre sort. Mais peut-être aussi que l'esprit de compétition, personnellement, je pense que c'est très, très culturel, mais il y a peut-être quelque chose d'un peu très, très précoce, sens où, par exemple, si on a des frères et sœurs, peut-être qu'instinctivement, on se sent un peu parfois en compétition avec eux. On voudrait être plus aimé qu'eux, on voudrait être l'enfant préféré. C'est pas systématique, mais ça peut arriver aussi. Pas qu'on s'en rende compte, c'est ça qu'on appelle ça de la compétition.
On va revenir là-dessus parce qu'il y a le fait d'être éveillé par la présence de l'autre et il y a le fait, à un moment donné, d'être éclipsé et donc de se dire que, par conséquent, on doit éclipser à son tour pour pouvoir réussir. Et là, évidemment, ce ne sont pas les mêmes ressorts. Guy, aujourd'hui, quel est votre regard ? Alors, non plus sur l'éducation que vous avez reçue, on en a parlé, mais est-ce que vous avez le sentiment d'être un compétiteur ?
Non.
Oui.
Enfin, ça, justement, après avoir craqué parce que fatalement un jour ou l'autre tu trouves tes limites et quand tu les as trouvées c'est fini, c'est ce que disait Monsieur Marmion, c'est que même si j'avais été champion olympique, et ben je me rends bien compte que j'aurais été hyper heureux peut-être pendant un jour ou deux d'avoir entendu la Marseillaise sur ma performance et qu'après ben tu retournes à ta vie normale et c'est le vide. Et donc bon. Aujourd'hui, j'ai plus l'esprit de compétition. Ça ne veut pas dire que je nie la sélection. J'ai un regard beaucoup plus posé là-dessus.
Ouais,
c'est-à-dire que je ne me bats pas pour la médaille. Et ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'apathique ou un bisounours qui se fout tout et j'attends que ça se passe.
Dépassez, Guy, dans certains domaines. Vous avez le sentiment, parce que vous parliez de vos limites, c'est très intéressant, ça, justement, connaître
en
ses limites.
Quand je me dépasse, c'est jamais à mon détriment. je me mets beaucoup moins de pression avant, de colère avant, et puis je suis bien obligé d'accepter que je suis quelqu'un de faillible, parce que le truc d'être le plus beau, t'es le plus beau de la rue, tu vas voir au centre-ville, t'es le plus beau du département, tu vas voir dans la région, etc. Un jour tu trouves tes limites, et un jour, voilà, t'arrêtes de penser comme ça. Quand je me dépasse, je vise pas la première place, je vise le mieux. Ouais, effectivement, même si c'est un peu inconscient aussi. C'est-à-dire, si ça me passionne, je vais de toute façon faire bien. Mais si un autre a fait un peu mieux que moi, ou si je trouve, j'ai remplacé la jalousie par l'admiration.
Alors,
voilà.
C'était... Oh, mais vous êtes mon meilleur pote de la journée. C'est exactement ce à quoi je pensais, Guy. C'était l'admiration. Exactement, vous avez remplacé la jalousie par l'admiration. Parce que c'est ça, en fait, Pascal Schenck aussi. Hein. L'esprit de compétition, c'est admirer et vouloir s'éveiller au niveau de l'autre et peut-être même dépasser le maître. Mais ça n'est pas, effectivement, nourrir une forme de jalousie rageuse qui va faire... c'est toute la différence.
Oui.
Résumé, vous avez raison.
Parce qu'on apprend, j'adore, en imitant, on apprend en regardant l'autre.
Mais bien,
enfin,
sûr.
Vous apprenez à chanter, vous aimez une chanteuse, vous vous dites j'ai envie de faire comme elle.
Ouais.
Et puis petit à petit, vous vous rendez compte qu'il n'est pas nécessaire, comme disait Gandhi, j'adore cette phrase, d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la nôtre.
Mais c'est tellement ça. Guy, c'était super intéressant. Jean-François Marmion, on reviendra sur cette notion, hein, parce que c'est très joli. Hein. J'ai remplacé la jalousie par l'admiration. Alors là, vous m'avez scotché. J'adore. Ce sera la punchline de la journée, quoi. Guy, merci beaucoup. Jean-François Marmion, on se retrouve
beaucoup,
dans un instant. Marlène Schiappa nous rejoindra après les informations pour parler de la place des femmes aujourd'hui dans notre société, dans les ministères. Guy, je vous salue et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous et nous avoir éclairé de la sorte. À bientôt.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
On parle donc, vous l'avez compris aujourd'hui, de notre esprit de compétition. Et les femmes dans tout cela, doivent-elles redoubler d'efforts et se justifier d'être compétitives? Nos invités aujourd'hui jusqu'à 15h30 sont Pascal Schenck, journaliste spécialisé en psychologie, Jean-François Marmion qui est psychologue, et on accueille tout de suite Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur et très engagée, on le sait, pour les droits des femmes. Marlène Schiappa, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Marianne, qui incarne la République, c'est une femme, c'est une meuf, et pourtant il y a encore beaucoup à faire. Hein.
Ah oui, c'est vrai. On a fait en sorte qu'il y ait 109 Marianne désormais, donc c'est une exposition qui est sur le parvis du Panthéon. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir venir à Paris, elle est en plein air, et donc on a proposé à 109 femmes, astrophysiciennes, scientifiques, artistes, journalistes, mais aussi des aides-soignantes, des femmes qui ont été naturalisées parce qu'elles ont travaillé en première ligne pendant le Covid, et bien d'incarner Marianne, et donc elles sont exposées sur le parvis du Panthéon.
C'est ça le plan de féminisation du ministère qui fait partie de votre portefeuille, Marlène Schiappa?
Alors ça, c'est une opération qui vise à rendre visibles, ouais, ces femmes formidables. Et en parallèle, on a effectivement un plan de féminisation du ministère qui est très concret. L'idée, c'est de créer un vivier de femmes, en fait. Parce que vous savez, souvent, quand on demande à nommer des femmes, on nous répond « Oui, mais bon, il n'y a pas de vivier. Où sont les femmes qu'on pourrait nommer ?» Donc nous, on crée un vivier. On crée un cycle de formation qui s'appelle Ariane Junior pour faire progresser les femmes en début de carrière. Et puis, on se donne des objectifs chiffrés pour identifier, former et nommer des femmes à des postes importants. C'est ce qu'on a fait, par exemple, en nommant une femme à la tête des CRS pour la première fois. Elle s'appelle Pascale Dubois. Et c'est la première fois que c'est une femme qui dirige ces compagnies qui sont réputées pour à la fois être présentes sur les plages et sauver les gens, mais aussi pour leur maintien de l'ordre.
Alors, ces femmes, justement, qui sont encore, on va pas se mentir, hein, trop invisibles aujourd'hui, oui, l'esprit de compétition, parce que c'est notre sujet, est-ce qu'il est toujours suspect de nos jours du côté des femmes? Est-ce qu'il faut encore mettre les bouchées doubles quand on est une femme pour réussir aujourd'hui?
Oui, je crois que vous avez tout à fait raison de le pointer. Tout ce qui est esprit de compétition, mais aussi ambition, volonté de gagner de l'argent, volonté de faire une carrière, tout ça, c'est toujours suspect.
Mais qu'est-ce qu'on leur dit alors? Pourquoi c'est
Alors moi, j'ai organisé ce matin un événement qui s'appelle Commandante, où j'ai fait parler justement toutes les femmes qui ont su résister à la pression, s'affirmer, diriger, commander au ministère de l'Intérieur. Et ce sont des métiers difficiles, ce sont des femmes qui éteignent des incendies, qui travaillent au GIGN, donc l'unité d'élite de la gendarmerie, etc. Et elles ont partagé les conseils, les réussites, mais aussi les difficultés parfois qu'elles pouvaient rencontrer avec les autres femmes pour les inciter justement à briser le plafond de verre et à candidater aussi à des postes à responsabilité.
Donc ce que j'entends aussi, c'est que sans sororité, Donc sans soutien entre femmes, on n'y arrivera pas.
Oui, moi je crois que c'est très important.
Oui, c'est ça.
Exactement, la sororité, ça ne veut pas dire qu'on doit toutes être super copines les unes avec les autres, mais ça veut dire qu'a priori, on peut se dire qu'on ne va pas se tirer dans les pattes et peut-être avoir un réseau de bienveillance où on se conseille, on s'entraide, on se soutient. Quand il y en a une qui progresse, elle fait aussi progresser les autres et la visibilité des autres.
Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'esprit de compétition constructif en fait, hein, Pascal
Schenck.
Oui,
de coopération en fait, transformer la compétition en une coopération où existe, mais où l'autre existe aussi avec moi.
Voilà, et c'est l'idée de briller, de faire briller, et c'est d'avancer ensemble. Et les hommes, dans tout ça, Marlène Schiappa, quel rôle est-ce qu'ils ont à jouer dans le domaine professionnel vis-à-vis des femmes ?
Alors, d'abord, ils ont un rôle important, puisque dans les postes de haute direction, la majorité des postes, ça reste quand même des postes détenus par des hommes. Donc on a besoin que les hommes s'engagent. C'est pourquoi on leur a demandé de signer tout à l'heure le plan de féminisation. Et puis par ailleurs, on est dans des métiers au ministère de l'Intérieur qui se jouent en équipe. Quand vous êtes dans un commando ou quand vous êtes dans un groupe au GIGN et que vous devez résoudre une prise d'otage ou mettre à bas un terroriste, et bien dans ces cas-là, si vous n'êtes pas dans un groupe solidaire, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment que femmes et hommes, chacun cultive cet esprit d'équipe et ce respect des compétences et de la réussite de l'autre. La réussite de l'un, c'est la réussite de tous et de toutes, finalement.
Jean-François Marmion, une réaction au propos de Marlène Schiappa ?
Non, moi je suis toujours surpris de voir que depuis 30 ans, il y a eu une femme à Matignon, il y a eu très peu de femmes Place Beauvau, très peu de femmes à Bercy. Et aujourd'hui encore, ben, faut croire qu'aucune femme ne serait capable de faire ce que fait M. Castex.
Marlène Schiappa. Marlène Schiappa.
Alors, on est sur des milieux, effectivement, qui sont historiquement masculins, qu'il s'agisse du ministère de l'Intérieur. Mmh. D'ailleurs, il y a une femme au ministère de l'Intérieur, je suis là. Et qu'il s'agisse du monde politique, c'est pareil pour le sport ou pour les domaines liés à la sexualité. Ce sont des domaines qui, traditionnellement, sont réservés aux hommes. Et quand les femmes arrivent dans ces domaines, elles sont vues comme des intruses. On va leur faire comprendre que c'est pas leur place. Il y a une présomption de compétence pour les hommes. Un homme arrive, il a un costume, une cravate, il est sûrement expert de quelque chose, de quoi on ne sait pas, mais il est sûrement très compétent. Une femme arrive, pour peu qu'elle soit en plus un peu féminine ou qu'elle ne se fonde pas trop dans le moule, on se demande un peu ce qu'elle fait là. Et ça, c'est vraiment une présomption d'incompétence contre laquelle il faut nous battre et ne rien laisser passer des remarques sexistes qui sont faites aux unes et aux autres.
Et Marlène, vous l'avez subi ça ?
Ah oui, complètement, je le subis encore.
Parce que...
C'est-à-dire, en tant que femme, on nous juge sur notre apparence, notre vie personnelle, réelle ou supposée.
Non, mais dans le domaine politique, c'est pareil, vous avez dû vous battre aussi.
Oui, complètement. Bah, moi, quand je suis arrivée, j'ai commencé la politique, j'étais une trentenaire, j'arrivais, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po. Il y a cette présomption d'incompétence qui existe. Mais moi, j'ai eu la chance d'être très bien entourée et beaucoup soutenue, et notamment soutenue par le président de la République, qui m'a nommée et qui m'a beaucoup soutenue tout au long de mon parcours. C'est ça aussi qui m'a permis de m'assumer et de m'affirmer. C'est le fait d'avoir ces soutiens importants.
Je vous remercie en tout cas de nous avoir accordé ce temps, Marlène
Merci
Schiappa. C'était très
Avec
clair.
Plaisir.
Et je rappelle donc ce plan de féminisation du ministère. Hein, et donc, vous nous tiendrez au courant, évidemment. Hein, nous, on va guetter tout ce qui se passe. Merci à vous.
Merci à vous.
Et bonne fin de journée à l'écoute d'RTL. Nous, on se retrouve dans un instant. Il y a Marie qui nous a appelé et elle va pouvoir témoigner. À tout de suite.
RTL.
Flavie Flamand. Jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Extraordinaire. Marie est en ligne avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour Flavie.
Qu'est-ce que je suis contente, comme dirait Céline, de pouvoir parler à une femme. C'est incroyable. Est-ce que vous comprenez, Marie, que ce sujet sur l'esprit de compétition ait mis du temps à susciter des réactions féminines ? Là, aujourd'hui, on n'avait que des hommes qui avaient des choses à dire. Et d'ailleurs, on remercie Jacques pour sa patience qui a l'élégance de vous faire passer avant.
Oh, moi, je le remercie aussi. C'est plutôt de la surprise, en fait, parce que j'étais étonnée de vous écouter et d'entendre qu'il n'y avait pas d'autres témoignages féminin.
Ouais.
Je me suis dit que c'était peut-être quelque chose de difficile à s'approprier pour des femmes en général, mais étonnant en ce jour si spécial du droit des femmes.
Exactement. Alors vous êtes compétitive ?
Je pense que oui. Dans la définition que vous en avez donnée au début de l'émission, dans l'esprit de vouloir évoluer, d'y arriver, d'avoir de l'ambition, des projets.
Ouais.
Et tout ça, c'était très différent de ma vision et de la vision du monde extérieur, tel que je l'ai appelé dans mon témoignage.
Alors justement, expliquez-nous, vous avez 28 ans, vous êtes ingénieure conseil en urbanisme, vous êtes enseignante en communication auprès de médecins généralistes à la faculté de Bobigny. Expliquez-nous justement ce décalage. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
pour moi, c'était très clair lorsque je faisais mes études et lorsque j'étais à l'école. On nous stimulait tous de façon assez égalitaire sur le fait de réussir nos projets, nos envies. Et du coup, c'était tout à fait logique d'y arriver et de se dire, bon, bah, très bien, on passe un bac avec une mention, on va faire une classe préparatoire, on va faire des études universitaires qui sont brillantes. Et puis tout d'un coup, il y a la réalité de vous entrer dans le monde du travail.
Et ouais, c'est dingue.
En fait, les gens, ils ne prennent pas du tout ça comme acquis, le fait qu'une femme ait le droit d'avoir ces projets-là. Et ça m'a fait vraiment bizarre parce que je me suis dit que j'étais baignée dans un milieu un peu spécifique qui était certainement le milieu universitaire et le milieu des ingénieurs. Enfin, ingénieur, je veux dire, au sens de on réalise des études. Mmh. Et tout à coup, le reste du monde n'était pas comme ça. Sachant que, comme moi, j'ai été élevée par une maman, c'était une famille monoparentale, et que mon frère s'est assez vite absenté de notre foyer familial, je ne m'étais pas vraiment confrontée à la réalité.
Vous n'étiez pas préparée à la réalité, quoi.
Oui,
et
c'est ça.
C'est dingue. C'est-à-dire qu'on vous a préparé pour réussir, on vous a aidé à réussir, et au moment où vous pouvez mettre en pratique et vous pouvez vous réaliser après des études, eh bien là, vous êtes confrontée à une société qui n'a pas évolué comme le milieu universitaire a pu le faire. On accueille Jacques, Julie. On va lui demander ce qu'il en pense. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup pour votre patience, mais Julie est arrivée et je n'ai pas douté de votre élégance. Vous venez de l'entendre.
Mais c'est un plaisir.
C'est intéressant d'entendre une jeune femme, Marie, une jeune femme comme Marie qui se réalise et qui en même temps se rend compte que le monde n'a pas avancé aussi vite que celui de ses études. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'homme ?
Moi, je trouve que l'esprit de compétition, le mauvais esprit de compétition, comme je l'appelle, c'est-à-dire les gens qui transforment tout en un odieux concours, c'est quand même un défaut qui est assez masculin.
Ouais.
Je dis pas ça pour faire de la lèche, parce que c'est le jour de la femme. Mais franchement, je suis assez d'accord avec Madame Chin, ce qu'elle disait au début d'émission, que la compétition, il faut mieux la motiver envers soi-même que d'essayer de démontrer son orgueil et sa frustration en prenant l'ascendant et de dominer les autres.
Vous, Jacques, comment est-ce que vous l'avez développé, cet esprit de compétition ? Est-ce que ça a été difficile pour vous ? Vous êtes dans un milieu d'artisanat, vous êtes archetier. Quel est le regard que vous posez sur votre propre parcours ?
Mon propre parcours, moi j'ai eu la chance d'avoir un maître qui était un type fort brillant, qui avait une énorme autorité sur nous. Et qui réussissait à faire sortir l'essence de chacun, à nous faire cracher notre talent. C'était vraiment comme ça, c'était assez dur comme apprentissage. Mais il a réussi à nous faire tous sortir notre talent, le plus de talent possible qu'on avait en nous, sans jamais nous mettre en compétition.
En fait, ce que vous appelez Jacques un maître, Marie, est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des guides aussi ?
Pour moi, c'est très similaire, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont référentes et qui nous font nous construire. Et nous, on s'imprègne de ça en tant qu'enfant, en tant que pré-adulte ou petit jeune adulte. Et après, quand vous êtes confronté à la réalité du monde global, vous vous rendez compte qu'il y a des vraies dissimilitudes et qu'il faut vous battre, que c'est pas du tout acquis, quoi, cette version d'une femme qui a le droit de réussir et qui a envie de réussir. Sans être un peu caricatural dans la personne qui raye le parquet avec ses dents et ses ambitions longues.
C'est ça qui est dingue. Alors, Pascal Schenck, c'est vrai ça. Les femmes, mais c'est comme pour... Alors, pardonnez-moi, je vais peut-être dans des clichés, mais c'est comme une femme qui a une sexualité épanouie, on va forcément le lui reprocher. Une femme compétitive est une femme qui peut avoir les dents qui rayent le parquet, alors qu'on saluera presque plus l'esprit de compétition chez un homme. Ou un homme qui n'a pas l'esprit de compétition, on va trouver que c'est pas un homme, c'est pas un vrai, c'est pas un dur.
Oui,
il
faut pour y avoir accès qu'elles se mettent en contact avec leur estime d'elles-mêmes, avec leur relation de coopération avec les autres femmes. C'est vrai, parce que sinon, elles se retrouvent à essayer d'appliquer des modèles masculins qui nous amputent, en fait, qui ne nous ressemblent pas.
Et ça nous fait faire des conneries, vous trouvez, parfois, Jacques, l'esprit de compétition, lorsqu'il est mal placé ? Ou des choses absurdes ?
Chez certains hommes qui transforment tout en compétition, on le remarque au volant, comportement en société, un simple jeu pour gagner 3 haricots, ils sont prêts à s'engueuler avec tout le monde.
Ouais, c'est le concours de quéquette, quoi. Hein, Jean-François Marmion ?
Absurde, exactement.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai, Jean-François.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé quand même avant l'émission ce que disaient des publications de psychologie scientifique. Et ça confirme tous les clichés, c'est-à-dire que oui, c'est très genré. Une femme compétitive, par exemple, l'avouera moins facilement qu'un homme. Et les femmes, globalement, ont tendance à partir davantage perdantes en matière de compétition parce qu'elles se disent que c'est pas pour elles. Et même, elles croient moins aux effets positifs de la compétition. Globalement, le fait d'améliorer ses performances, d'avoir confiance en soi, de développer sa créativité, par ce biais-là, elles s'en foutent un petit peu. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Ça, c'est le fait qu'on se conforme au stéréotype dont on est victime. Par exemple, si on met des hommes et des femmes dans un amphithéâtre, on les soumet à une épreuve de maths, en distribuant les sujets, si on leur dit, attention, les femmes réussissent moins bien en maths, généralement. Eh bien, effectivement, les femmes vont se planter davantage que les hommes à cet examen-là, et pas si on ne dit rien en distribuant les sujets.
On y revient dans un instant. Merci Jacques, je vous embrasse.
Merci
Marie, c'était super intéressant et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger encore sur plein de sujets. C'était très éclairant, c'était chouette.
Merci beaucoup.
Allez, force et honneur, on se retrouve tout de suite sur RTL.
On est fait pour s'entendre, Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30,
Flavie Flamand sur RTL.
Pardon à Julie qui devait intervenir, on a vraiment un problème de temps, donc Julie, j'espère qu'on pourra se reparler très vite. Voilà, pardonnez-moi. Pascal Schenck, vous vouliez revenir sur la peur de l'échec.
Oui, parce qu'il me semble que c'est central dans cette compétition un peu destructrice, que comme Guy nous l'a décrit, cette guerre, cette lutte permanente, c'est surtout il ne faut pas que je me plante, surtout il ne faut pas que je fasse une erreur, surtout il ne faut pas que j'échoue. Et là, il y a une espèce de fantasme de l'échec qui vient justement vous couper de vos forces vives. L'échec fait partie du chemin. L'échec fait partie de, voilà, on est sur une route, on avance, il y a des jours c'est bien, il y a des jours où c'est moins bien, et puis on fait avec tout ça.
Et dans ces cas-là, on est sûrement notre propre ennemi. Alexandra nous écrit, j'ai un gros esprit de compétition, j'aime beaucoup gagner, mais j'accepte aussi mes défaites, nous écrit-elle, Jean-François Marmion. J'ai toujours entendu depuis toute petite qu'il fallait que je me donne à fond dans tout ce que je faisais, toujours faire mieux, essayer de me surpasser. Voilà un discours d'éveil, hein, Jean-François Marmion. C'est ça, en fait.
Oui, mais se surpasser, pour quoi faire ? Si on ne se surpasse pas, qu'est-ce qui se passe ? On est mauvais ? Chaque fois qu'on pense à se développer, surpasser, à repousser nos limites, on pense qu'on n'est pas assez bien. On n'est pas bien si on se surpasse.
Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est une façon de alors attends, je comprends ce que vous voulez dire, mais moi je trouve que c'est une façon d'agrandir les territoires intérieurs qu'on peut conquérir. Quoi.
Pourquoi conquérir
parce que je trouve ça fascinant de se connaître davantage. Je trouve que
La vie s'en charge bien. Vous n'avez pas besoin de conquérir ou de lutter, ou je sais pas quoi. La vie est une école. Toute la vie, vous apprenez quelque chose parce que vous plantez toute la vie, vous découvrez toute la vie. Il y a des choses qui se présentent, des rencontres.
C'est chouette, je trouve, je sais pas.
Bah, c'est chouette, mais on n'est pas obligé.
Ah bah non, mais j'ai jamais dit qu'on était obligé. Mais puisqu'on parle de l'esprit de compétition, justement, et de dire à un enfant, fais au mieux, voilà.
Faire au mieux, ça veut pas dire que t'es pas bien tel que tu es.
Ok.
Ça veut dire que tu as les capacités,
oui, c'est vrai,
de faire au mieux.
Oui, mais de dire en fait, tu es encore plus grand que tu n'imagines. Enfin, je sais pas. Est-ce que Pascal Schenck?
Oui, tu vas te déployer.
Oui,
tu vas avancer.
Idée de
tu vas te déployer.
Pas,
ouais.
non.
Oui, mais l'enfant, vous l'aimez tel qu'il est. Vous lui dites pas, je t'aimerai encore plus si tu te déploies.
Ah ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est l'amour que l'on porte sur soi.
Oui, mais lui, il va penser ça. Lui, il va penser, faut que je sois encore meilleur parce que sinon, je vais décevoir.
Je comprends. Pascal.
Voilà. Ouais, l'éducation.
Voilà,
gna,
Gargamel, là. Non, mais bon, alors qu'est-ce qu'il faut dire à un enfant ? Jean-François.
Qu'est-ce qu'il faut dire à un enfant ?
Puisque vous disiez que c'est culturel, l'esprit de compétition.
Oui. Moi, je pense que oui.
Donc.
Oui. Mais l'enfant, de toute façon, quoi que vous lui disiez, il sera inquiet. Il se dira, est-ce que je vais réussir à l'école parce qu'il y a une interrogation demain ? Est-ce que je vais réussir à mon brevet ? Il va être inquiet de toute façon. Votre façon de le rassurer, ça ne va pas être de dire, mais de toute façon, il faut que tu sois le meilleur.
Non, justement, non. Fais au mieux. Fais ce que
voilà,
tu penses.
Voilà, c'est ça. Fais au mieux, mais même
révise.
Même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu réussiras la prochaine fois.
Ah ben
on comprendra ensemble pourquoi tu as échoué et tu vas apprendre des trucs et je t'aimerais tout autant.
Alors, conclusion rapide, Pascal Schenck, est-ce qu'on se fait forcément bouffer lorsque l'on n'a pas de l'esprit de compétition aujourd'hui ? Est-ce qu'on est faible et vulnérable ?
Non, si on met son énergie dans ce qui nous conduit le plus profondément, dans nos passions, dans nos envies, nos admirations, si on se connecte à ses ressources intérieures, on ne se fera pas balayer par la compétition. Parce qu'on sera heureux de faire vivre ce qu'on a en soi au mieux, comme disait Jean-François.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour ces échanges qui étaient passionnants. Alors, je vais vous faire une confession. J'ai perdu ma fiche avec la promotion de vos ouvrages. Donc, je vais m'en remettre à vous, Pascal Schenck. Qu'est-ce que l'on peut conseiller à nos auditeurs ? Voir la vie autrement.
Et tu verras ta vie autrement.
Et tu verras
aux éditions Larousse.
Merci beaucoup. Merci. Pardonnez-moi vous, pour ce manquement. Merci beaucoup, Pascal Schenck, d'avoir accepté mon invitation. Jean-François Marmion, le guide de la connerie en politique ?
Non, c'est pas le guide, c'est psychologie de la psychologie. Connerie politique avec 30 experts dedans, 30, des politologues, des psychologues, des philosophes, des sociologues.
Et c'est chez First ?
Ah non, c'est chez Sciences Humaines, mais c'est bien aussi.
Et comme quoi, vous voyez, sans mes fiches, je peux rien faire. Je peux tenir des interviews, mais je ne peux pas forcément faire la promo de mes invités. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Je vous embrasse bien fort. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 14h30 en direct sur RTL. Oh, on parlera de la tendresse. Prenez bien soin de vous. À demain.